Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français sur la radio SBS de ce samedi 10 avril. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner. Dans cette édition, comme tous les samedis, on parlera d'un événement qui s'est passé ce jour-ci dans l'histoire. Retour cette semaine sur l'éruption volcanique la plus meurtrière des 1000 dernières années. On parlera également de Haïti, la première république noire à s'affranchir de l'esclavage et à obtenir son indépendance, et surtout des conflits d'une Australo-Haïtienne racontés dans une nouvelle comédie musicale Map Boulé. Mais sans plus attendre, l'actualité de ce samedi 10 avril. Un salut de 41 coups de canon à Canberra aujourd'hui marquera le décès du prince Philippe, âgé de 99 ans. L'Australie se précipite pour obtenir plus de doses de vaccins avec 20 millions de vaccins supplémentaires de Pfizer promis d'ici la fin de l'année. Et en France, suspense sur la tenue des élections régionales sur fond de raté de la campagne vaccinale liée au vaccin AstraZeneca. La Grande-Bretagne entre dans 8 jours de deuil après le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Dans une déclaration du palais de Buckingham, la reine Elisabeth II a annoncé avec une profonde tristesse que son mari était décédé paisiblement au château de Windsor. Il est décédé à l'âge de 99 ans. Le couple était marié depuis 1947 et il était le époux le plus ancien d'un monarque britannique régnant. Les personnes en deuil se sont rassemblées devant les portes du palais de Buckingham et beaucoup ont laissé des hommages floraux. Cet expatrié néo-zélandais estime que la mort du duc est une perte énorme, en particulier dans le contexte de la pandémie.
I think it's a huge loss, not only just because he's part of the royal family, but he's a husband, father, you know, he's been there for the Queen through her whole reign. And I think, yeah, the whole nation will be sad, especially at the moment, you know, with the pandemic, not being able to kind of have the usual mourning.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille royale britannique.
Your Majesty, here in Australia, and indeed across the world, your Commonwealth family joins in your sorrow and your mourning and that of your family. But also, we give thanks for the life of who you described as your strength and your stay, your Prince, Prince Philip, husband, father, grandfather, and great-grandfather.
Monsieur Morrison signera le livre des condoléances plus tard dans la journée et il dit qu'il se rendra à la cathédrale St. Andrew à Sydney demain pour rendre hommage au duc d'Édimbourg. On attend une annonce de l'église anglicane d'Australie concernant les services officiels de commémoration. Un salut des 41 coups de canon aura lieu à Canberra plus tard dans la journée pour marquer le décès du prince Philippe. L'ancien Premier ministre australien John Howard a également réagi à la mort du duc d'Édimbourg et il l'a décrit comme quelqu'un qui exerçait toujours son rôle avec grâce et intelligence.
Through several generations, 3 generations I guess, Prince Philip was always destined to be two or three steps behind, but he did that with extraordinary grace and flair and intelligence. He combined, if I could put it this way, the obligations of the office, the privilege of serving as the Queen's consort, with an individual capacity to make his mark.
Et les médecins généralistes affirment que les patients concernés ont commencé à annuler les rendez-vous de vaccination contre le COVID-19 en Australie. Ce, au moment où le pays entend doubler son stock de doses du vaccin Pfizer, le vaccin désormais préféré pour les adultes de moins de 50 ans. Le gouvernement a maintenant 4 à maintenant 4 accords avec différentes sociétés pharmaceutiques pour acquérir 170 millions de doses de vaccins, dont 20 millions du vaccin Pfizer d'ici la fin de l'année. Mais des médecins généralistes comme le docteur George Fogan-Smith affirment que la préférence pour le vaccin Pfizer a été déroutante, étant donné que la plupart des généralistes n'ont pas les systèmes de réfrigération en place pour administrer les injections de Pfizer.
I was all prepared and ready to ramp up. We start doing the AstraZeneca injections from Monday. And now it's like, oh, okay, things have changed a little bit. I've had a number of phone calls from worried patients, and I look after a lot of very unwell people, people living with HIV, for example, and just discussing the risks and things that we can do to help mitigate that.
Eliane, résidente de Brisbane, qui a des antécédents de caillot sanguin grave, est l'un des nombreux patients qui ont reporté leur rendez-vous de vaccination jusqu'à ce que les problèmes de sécurité soient résolus.
Even if I have to wait till sometime next year to get my vaccine, if that's Pfizer or a different one that's not going to elevate my risk, I'm still going to get it eventually.
Et des milliers d'Australiens vont manifester ce samedi pour protester contre la mort des aborigènes en détention. Ces manifestations marquent le 30e anniversaire du dépôt du rapport de la Commission royale d'enquête sur les décès des aborigènes en détention. Les organisateurs affirment qu'aucune des recommandations de la Commission royale d'enquête n'a été adoptée, que plus de 450 aborigènes sont morts en détention entre 1991 et 2021. 5 aborigènes australiens ont perdu la vie en garde à vue depuis le début du mois de mars de cette année, et les manifestations auront lieu à travers tout le pays. Hier soir, le gouvernement du Victoria a annoncé un assouplissement des restrictions sanitaires relatives à la pandémie du coronavirus. À partir de minuit, certains lieux de divertissement assis sont désormais autorisés à fonctionner à 100% de leur capacité. Et les restrictions ont été levées sur les sites pouvant accueillir jusqu'à 1000 places, et les opérateurs peuvent désormais occuper chaque siège. Les plus grands sites doivent, eux, encore demander des autorisations en vertu des règles de l'État pour les événements publics. Les élections régionales auront-elles lieu en juin en France? Eh bien, le Premier ministre Jean Castex a reçu les avis de tous les partis politiques qui plaident en grande majorité pour le maintien du scrutin. L'exécutif n'a plus que quelques jours pour choisir. Le gouvernement rendra sa décision la semaine prochaine à l'occasion d'un débat au Parlement mardi et mercredi prochain. Julien Savonne de RFI.
Maintenir les élections régionales, c'est le scénario privilégié par le gouvernement. C'est aussi ce que demande la quasi-totalité des partis, du Rassemblement national aux marcheurs en passant par les Républicains et la France insoumise. Seul le MoDem de François Bayrou et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, deux proches d'Emmanuel Macron, se prononcent pour décaler le scrutin en octobre, quelques mois de plus pour mener une campagne électorale normale. Le gouvernement rendra sa décision la semaine prochaine à l'occasion d'un débat au Parlement mardi et mercredi. Première option, reporter les régionales, synonyme de tollé politique. L'exécutif serait alors accusé de s'asseoir sur la démocratie. Deuxième option, maintenir le scrutin, mais c'est prendre le risque de voir les Français éviter les bureaux de vote par peur du virus, comme au municipal de mars 2020. Emmanuel Macron et Jean Castex se sont coincés entre deux mauvaises solutions, faute aussi d'avoir anticipé le scrutin. En un an, rien n'a été fait pour faciliter l'accès aux urnes en temps de pandémie, comme le vote par correspondance ou par Internet.
Et toujours en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souhaite des vaccins à ARN messager interchangeables, alors que la Haute Autorité de Santé s'est prononcée sur le sort de plus d'un demi-million de personnes de moins de 55 ans qui ont eu une première injection du trop controversé vaccin d'AstraZeneca. Ces personnes devraient recevoir une deuxième dose d'un autre vaccin à ARN messager, soit celui de Pfizer ou celui de Moderna. Détail avec Cédric de Oliveira pour RFI.
Et il fallait les rassurer. Depuis qu'AstraZeneca ne peut plus être inoculée à leur catégorie d'âge, la AS a donc tranché. Pour eux, la deuxième dose sera forcément de type ARN messager, Pfizer ou Moderna, comme l'explique Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de l'instance.
L'injection de vaccin va faire réagir le système immunitaire vis-à-vis de la protéine Spike. Et donc là, l'ARN va jouer comme un booster, c'est-à-dire c'est déjà un rappel de vaccination. C'est le schéma vaccinal mixte.
Un protocole assez novateur qui ne repose pour l'instant que sur des études expérimentales et des essais sur les animaux. Mais la Haute Autorité de Santé se veut rassurante, même si son efficacité n'a pas encore été totalement prouvée sur l'homme.
Il apporte un certain nombre d'avantages en termes de type de la réponse immunitaire, de durée de la réponse immunitaire. Cette stratégie, elle est en cours de développement sur un certain nombre de vaccins, des vaccins VIH, des vaccins contre la grippe, des vaccins contre l'hépatite B. Donc ce concept est largement développé actuellement.
Un schéma vaccinal pour les 500 000 personnes concernées en France. Des études plus approfondies vont être menées pour évaluer la qualité de cette réponse immunitaire avec ce procédé.
Et l'Agence européenne des médicaments enquête sur des rapports selon lesquels un deuxième vaccin contre le coronavirus, le vaccin Johnson & Johnson, peut provoquer des caillots sanguins internes potentiellement mortels. L'EMA dit avoir reçu 4 cas graves de coagulation après la vaccination. Une personne est décédée et un cas a été remarqué lors des tests cliniques. L'agence a déjà répertorié la coagulation comme un effet secondaire du vaccin AstraZeneca, citant un lien possible. L'EMA et l'Organisation mondiale de la santé affirment que les avantages de la vaccination l'emportent largement sur les risques. L'ambassadeur d'Allemagne au Liban a déclaré qu'il n'y aura pas d'aide financière internationale pour la reconstruction du port de Beyrouth tant que les dirigeants du pays n'auront pas mis en place des réformes substantielles. Selon l'ambassadeur Andreas Kindl, les dirigeants politiques libanais doivent mettre en place un gouvernement pour apporter des changements.
I think this time is different. This time there is a clear international commitment that there will be no financial support, no international financial support for any reconstruction before there are reforms, substantial reforms, credible reforms, economic political reforms that need to be done, that need to be implemented. And it's not that difficult. Every former Lebanese government has agreed to these or even proposed these reforms. They need to be done.
On se souvient que la terrible explosion le 4 août dernier avait tué 211 personnes et en avait blessé plus de 6000. Plusieurs pays seraient intéressés par la reconstruction du port et de ses environs, mais l'Allemagne est la première à se rendre au Liban et à présenter un plan aux responsables du pays. Le médecin légiste en chef qui a qualifié la mort de George Floyd comme un homicide a témoigné à son procès. Le docteur Andrew Baker a déclaré que la façon dont la police avait retenu M. Floyd et comprimé son cou était juste plus que ce que George Floyd pouvait supporter compte tenu de son problème cardiaque préexistant.
Those events are going to cause stress hormones to pour out into your body, specifically things like adrenaline. And what that adrenaline is going to do is it's going to ask your heart to beat faster. It's going to ask your body for more oxygen so that you can get through that altercation. And in my opinion, the law enforcement subdual restraint and the neck compression was just more than Mr. Floyd could take by virtue of those heart conditions.
Une autre médecin légiste, Lindsay Thomas, elle aussi est arrivée aux mêmes conclusions que M. Baker. Elle a déclaré que le volume considérable de vidéos de l'arrestation contribuait à confirmer la conclusion selon laquelle l'asphyxie par la police avait causé la mort de M. Floyd. Selon Lindsay Thomas, la mort de l'homme noir n'a pas été causée par une overdose de drogue, comme l'ont soutenu les avocats de l'ancien policier Derek Chauvin, jugé pour le meurtre de M. Floyd. Une alerte des conditions météo très violentes a été lancée pour certaines parties de l'Australie occidentale, ce au moment où deux cyclones tropicaux interagissent au large de la côte nord-ouest de l'État. On s'attend à ce que le cyclone tropical Odette s'approche de l'extrême nord-ouest de l'État ce samedi, apportant la possibilité de vents très violents dès cet après-midi. Le cyclone tropical Seroja devrait toucher terre entre Carnarvon et Juryan Bay, tard dimanche soir ou tôt le lundi matin. Les autorités ont prévenu pour les résidents tous les résidents de se préparer à des conditions météorologiques dangereuses. Et un coup d'œil météo pour ce samedi à travers l'Australie. Perth 30 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 18, Hobart 15, Canberra 19, Wollongong 23, Sydney 25, Newcastle 25, Brisbane 32, Cairns 32 également et Darwin 33 degrés. Un rappel des titres de l'actualité de ce samedi, un salut de 41 coups de canon à Canberra aujourd'hui marquera le décès du prince Philippe, âgé de 99 ans. L'Australie se précipite pour obtenir plus de doses de vaccins avec 20 millions de vaccins supplémentaires de Pfizer promis d'ici la fin de l'année. Et en France, suspense sur la tenue des élections régionales sur fond de raté de la campagne vaccinale liée au vaccin AstraZeneca.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Dans l'actualité sportive de ce samedi, la Premier League anglaise et d'autres compétitions sportives rendront hommage au duc d'Édimbourg ce week-end. Les sportifs du pays observeront une minute de silence et porteront des brassards noirs en signe de respect. La Football Association a annoncé que les drapeaux à Wembley et à St George's Park seront en berne. À présent, quelques résultats de la Ligue 1 en France. Cette semaine, on joue des matchs comptant pour la 32e journée du championnat français. Bien tôt ce matin, Metz s'est incliné à domicile contre Lille. Résultat final donc 2-0 en faveur des Lillois. Quatre autres rencontres sont inscrites au tableau de cette 32e journée. Strasbourg-PSG, Montpellier-Marseille, Rennes-Nantes, Saint-Étienne-Bordeaux et ce match se joue demain. Et sur le continent africain, un gros week-end de football en perspective. On commence par la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions avec 3 billets à décrocher. Et je vous propose à ce sujet un extrait du journal des sports africains de Martin Guèze sur RFI.
Il restait 3 billets pour les quarts de finale à décrocher avant cette 6e journée. Il n'y en a désormais plus que 2 à distribuer puisque les Algériens de Belouizdad ont obtenu le leur en allant battre le Mamelodi Sundowns 2-0 en Afrique du Sud ce vendredi soir. Les deux équipes sortent de ce groupe A devant le tout-puissant Mazembe. Le club de Lubumbashi éliminé dès le premier tour qui n'ira pas en quart de finale d'une Coupe d'Afrique pour la toute première fois depuis 10 ans. Eh bien, le club luchois a tout de même sauvé l'honneur en gagnant 2-1 sa dernière rencontre à domicile face au Soudanais Dalilal Obdourman. Relever la tête, c'était bien là le principal pour le milieu ivoirien des Corbeaux, Christian Kofi. Et tant pis si certains pensent que ce match comptait pour du beurre.
Ceux qui sont à l'extérieur de l'équipe, ils se disent que le match est sans enjeu, mais après aussi nous, et on est venu pour être victorieux parce qu'après on avait le droit de sauver l'honneur de l'équipe pour ne pas quand même sortir et dernier de ce groupe. Et nous sommes sortis troisième, ce qui n'était pas l'objectif du club. Et voilà, et on va essayer de corriger nos erreurs qui n'ont pas marché dans cette compétition pour revenir plus fort l'année prochaine.
Christian Kofi au micro de Pascal Mangala, noté dans les autres résultats de la soirée, la victoire d'un autre club congolais déjà éliminé, les Dauphins de l'AS Vita Club, qui ont un petit peu retrouvé le sourire en disposant des Soudanais d'El Merrir. 3-1, les leaders du groupe A, Al Ahly et Simba, s'affrontaient dans un match sans enjeu et les tenants du titre égyptien l'emportent 1-0 face au Tanzanie.
Et au championnat australien, la A-League, on joue cette semaine des matchs comptant pour la 16e journée du championnat national australien. Bien hier, les Brisbane ont battu MacArthur 2-1 et cet après-midi se joue d'autres rencontres comptant pour la 16e journée. Melbourne Victory joue contre Newcastle Jets, coup d'envoi à 15h05 et ce match sera suivi par celui entre Sydney FC contre Melbourne City à 17h05. On signale que les Central Coast Mariners restent en tête du classement de la A-League devant Melbourne City avec un petit écart de 3 points d'avance. Et au rugby australien, cinquième semaine de ce championnat NRL, bien hier, les Warriors se sont inclinés face aux Sea Eagles 12-13. Les Panthers ont battu les Raiders 30-10. Et cet après-midi, les Titans jouent contre les Knights à partir de 15h05. Ce match sera suivi par la rencontre entre les Bulldogs et les Storms à 17h30. Et enfin, le dernier match de la journée, ce sera celui qui opposera les Roosters aux Sharks. Coup d'envoi à 19h35. Et au Rugby League, on signale qu'une grave blessure à l'épaule a contraint le co-capitaine du North Queensland, Michael Morgan, à prendre sa retraite. En effet, les médecins ont dit à l'homme de 29 ans que ses problèmes d'épaule chronique mettaient fin à sa carrière. Après avoir fait ses débuts en 2010, Morgan a joué 168 matchs, dont celui qui a sacré les Cowboys en 2015. Michael Morgan a également représenté le Queensland dans 12 affrontements de State of Origin opposant le Queensland à la Nouvelle-Galles du Sud et il a aussi joué dans une douzaine de rencontres internationales, 12 fois pour l'Australie. Et AFL ou footy, on joue des matchs comptant pour la quatrième journée du championnat. Bien hier, Port Adelaide a battu Richmond 79 à 77 points. Les autres rencontres inscrites au tableau pour cette quatrième journée, il y a cet après-midi, les Bulldogs qui jouent contre Brisbane, Saint Kilda West Coast Eagles, Gold Coast Carlton et Collingwood jouent contre les GWS Giants. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi, suite du programme après la pause. Et c'était Face à la mer de Calogero et Passy sur les antennes de la radio SBS. Il est 13h27 minutes et 45 secondes. Dans le programme de notre rubrique rétro, retour sur l'éruption du mont Tambora en Indonésie. On parlera également de l'indépendance de Haïti et l'expérience d'une Australo-Haïtienne qui a grandi en Australie sur une terre qu'elle dit être une terre volée. Histoire racontée dans une nouvelle comédie musicale Map Boulet.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous sommes le 10 avril. Notre rubrique rétro, comme chaque samedi, nous voilà en 1815. Le 10 avril 1815, le volcan indonésien Tambora entrait en éruption. Les spécialistes estiment qu'il s'agit de la plus forte éruption volcanique des deux derniers millénaires. Les conséquences ont été terribles. Une centaine de milliers de morts aux alentours et des bouleversements climatiques qui ont entraîné d'autres catastrophes dans le monde, comme des épidémies de choléra. L'éruption du volcan Tambora, le 10 avril 1815. Nous y revenons en vous proposant des extraits du documentaire diffusé sur Arte en 2016. Tambora, l'éruption qui a changé le monde.
Le 10 avril 1815, se produit une éruption volcanique dévastatrice en Indonésie.
L'éruption du Tambora a été l'une des plus grandes éruptions du millénaire.
Elle tue plus de 100 000 personnes dans la région. Un triste record. Elle provoque aussi un changement climatique planétaire. Dans l'hémisphère nord, le froid et les intempéries entraînent l'effondrement des récoltes, causant des famines dans une vaste partie de l'Europe.
Après l'éruption, la répression est de mise dans toute l'Europe.
Mais les autorités sont impuissantes contre le choléra.
Il y a eu des épidémies terribles qui ont fait des centaines de milliers de morts.
Comment l'éruption d'un volcan indonésien peut-elle provoquer une catastrophe planétaire ? Gillen Darcy Wood enquête à Londres. Cet historien américain, spécialiste de l'environnement, étudie les conséquences de l'éruption du Tambora dans différentes parties du globe au 19e siècle. Le musée Tate abrite la collection nationale d'art anglais. Il possède notamment des tableaux du peintre paysagiste John Constable, dont les nuages sont de précieux témoignages sur la catastrophe climatique causée par le Tambora.
Constable se considère comme une sorte de scientifique du ciel, un peintre météorologue. Avant lui, dans l'histoire de la peinture paysagiste européenne, l'arrière-plan et le ciel sont traités comme des éléments plus ou moins ornementaux, avec des nuages aux formes vagues. Le style de Constable reflète l'histoire du Tambora, car à cause de l'éruption, les années 1810 sont les plus humides et les plus nuageuses du millénaire.
À l'époque, les Européens ignorent que le mauvais temps est causé par un volcan situé à l'autre bout de la Terre, sur l'île indonésienne de Sumbawa. Deux siècles après le cataclysme, le Tambora mesure 2850 mètres de haut et ses flancs sont couverts de végétation. Plus rien ne trahit la violence de l'éruption de 1815. Ralph Gertisser arpente les environs du volcan. Ce volcanologue allemand est l'un des rares spécialistes du Tambora. Il veut reconstituer le déroulement de la fameuse éruption et en connaître l'intensité.
J'utilise un télémètre pour mesurer la hauteur de la paroi. Elle est formée d'épanchements pyroclastiques issus de l'éruption du Tambora en 1815. Il y a environ 9 mètres de dépôt.
Avant l'éruption, le volcan mesurait plus de 4000 mètres. C'était l'un des plus grands sommets d'Indonésie. En 1815, le volcan se réveille brusquement après des siècles de sommeil. Personne n'imagine qu'il va anéantir le peuple de Sumbawa en l'espace de quelques jours.
Il y a eu une énorme explosion au plus fort de l'éruption, le 10 avril 1815.
La cheminée du volcan crache 50 km cubes de roches et de cendres. Le panache volcanique s'élève jusqu'à 43 km d'altitude. La terre tremble, le volcan gronde. Personne ne comprend ce qui se passe. Mais dans quelques heures, toute vie sera détruite. L'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg a modélisé l'éruption du Tambora pour tenter de déterminer la baisse des températures et les précipitations induites dans diverses parties du globe. Différents scénarios ont été étudiés et dans presque tous les cas de figure, on constate des perturbations importantes du système climatique planétaire.
Les éruptions volcaniques sont comme des coups de marteau. On frappe une fois et ça modifie des choses. L'éruption du Tambora a porté un coup assez important comparé aux éruptions volcaniques plus récentes.
En général, une modélisation sert à prévoir l'avenir. Dans le cas du Tambora, elle a permis de reconstituer les effets possibles de l'éruption de 1815 sur le climat de la Terre. Sous l'action des vents d'altitude, un voile d'aérosol a alors recouvert presque tout le globe, provoquant un net recul des températures moyennes annuelles dans de nombreuses régions. À partir de 1816, une alternance anormale de sécheresse et de pluie conduit à une prolifération inédite du plancton, mais aussi des bactéries du choléra. Une épidémie d'une ampleur inédite éclate alors. Les symptômes du choléra sont des vomissements et des diarrhées qui entraînent généralement la mort par déshydratation en quelques jours. Voyageant dans l'organisme des soldats, des commerçants et des pèlerins, le choléra gagne d'abord l'Asie du Sud-Est, puis les Philippines, le Japon et la Chine. Il se diffuse à l'Ouest, en Perse d'abord, puis en Russie. Il atteint l'Europe continentale au début des années 1830, puis l'Angleterre et enfin par voie maritime, les deux Amériques. Londres est alors la plus grande ville du monde, avec 5 millions d'habitants. La maladie fait des ravages. La situation s'envenime et des émeutes éclatent à Londres et dans d'autres villes anglaises. Elles culmineront avec le massacre dit de Peterloo à Manchester. L'humanité avait presque oublié l'éruption du Tambora qui s'est produite il y a deux siècles. Cette éruption volcanique a plongé le monde dans une crise profonde qui a duré plusieurs années. Mais les famines, les émeutes et les maladies qu'elle a engendrées ont aussi fait évoluer la société. La peur du choléra a poussé les pouvoirs publics à construire des égouts dans les grandes villes. Le changement climatique brutal causé par le Tambora a provoqué les premières vagues de migration du 19e siècle et a accéléré la conquête de l'Ouest américain. En Europe, la famine a ouvert la voie à des réformes politiques majeures qui ont posé les premiers jalons d'un État social. Toutes ces évolutions sont des conséquences directes de l'éruption du Tambora qui a changé la face du monde.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
c'était Et pourtant avec Danny Briand sur les antennes de la radio SPS. Après la pause, nous allons avoir un autre entretien avec Nancy Denis qui nous parle de Maboulé, sa nouvelle comédie musicale.
Vous êtes avec SBS French.
My guest is Nancy Denis, and we're catching up to talk about her upcoming musical, Maboulé. In this musical, Nancy Denis explores the story of the first black-led republic, Haiti, and her personal journey as a Haitian-Australian woman living on stolen land. Welcome to SBS French, Nancy.
Oh, thank you so much for having me. I'm really happy to be here. Apologies that I won't be speaking in French, but it's all good.
Before we go into this conversation about this musical, what's the meaning of Maboulé? What does it stand for?
Maboulé in Haitian Creole means I'm on fire. That's its literal translation. And basically, in Haitian Creole, when someone asks you how you are, which is sak passe, you know, how are you doing, how are you, how are you walking by, an answer you can give, which is very common, is maboulé, with an M, which means I'm on fire. And if you're with people, it can be naboulé, with an N. It basically just means that you're good, like everything is fire, everything is good. But what's so brilliant, or what is so connected to the history of a Haiti with that answer, is that in 1804, when the revolution started, it did start with fire. They set fire to the land, to the owners, you know, land, in order to free the slaves that were there. It was a very coordinated attack. And so I think it's just very beautiful that in the language itself, the history is very rich within it.
It has to be reminded to our listeners that Haiti was the first, actually, French colony to free itself from colonization, not only colonization, also from slavery. And it was a slave colony, and it freed itself in 1804. And yeah, and you touch on this aspect in the show, and coming back to also living in Australia on another colonized land. Tell us how these come together in the show, these realities.
Doing the research for this play with songs, I just became very obsessed with my people and my history and my ancestors and everything they had done, and the realizing that the reason why we fought, you know, not just for ourselves but for our future, for our legacy, was also to give the land back to its original people. We were taking the land back for the original occupants and custodians of the land of Haiti. Because, you know, we spell Haiti with a H today, H-A-I-T-I, but sound-wise, Haiti is the original name of the land, which means the land of many mountains. Now, in relation to the us being here on this stolen land, the connection for me was just realizing how far-spread colonization has gone. Since 1804, my people, you know, rose up and freed themselves from this, and how here in this country we're still yet to be free from the colonizers here. And even myself, I know that I am a guest on this land, and realizing that as a people, you know, we should be fighting to give back the land to its original people. All of us here who get to live on this land and prosper on this land, it came from great sacrifice, you know, and the sacrifice wasn't willing. It was a takeover and an attempt of genocide on the people that is still continuing today with the second stolen generation, you know. Their children are being taken away from them at a rate that is higher than ever before. And it's something that we should be fighting against for them, because it is wrong. It's very, very wrong. And, you know, I relate that back to what happened to my ancestors, and then looking and seeing what's happening now. It's a fight that we can join in now and be a part of now.
Yeah.
And I do touch on that in the play, just because I feel as a black person, I am always reminded on this land that, you know, this is a black land with a lot of white people on it.
Yeah, and tell us a bit about your experience, because this show is also about your lived experiences on this land.
I will just say that the show that is happening at Darlinghurst, it'll just be an accumulation of the songs. It's not the play itself,
yeah.
but it is definitely still about my lived experience. So my lived experience here on this land was very confusing. I felt very split within myself, you know. Not being able to speak my mother tongue is always something that affects me, just because I feel like it's a way for me to connect more with my ancestors. But I still feel very connected to them, you know, because they can speak all languages. It's no matter for them. Living here, it was very difficult because you feel like you're in two different worlds all the time. You know, I come home to a very Haitian home. Both of my parents are from Haiti. So I come home to this very black home. And when I leave this very black home, I then leave into a world that is assimilated and colonized by the white English man, that's forcing me to fit into their narrative of what it means or what it is to be black, that is comfortable for the white gaze, for the white man, for the white woman, for the white Western world. So having to be the kind of black that is suited for them, it was very uncomfortable. I didn't have a very good sense of belonging.
Yeah.
Which is what I speak about in the play a lot. You know, it's hard to feel like you belong in this country when in primary school in year five, they teach you about the White Australia policy. And the White Australia policy is something that only ended in the 80s. So it ended like a few years before my parents actually come here. Learning about the White Australia policy in year five just really affirmed within me that I wasn't supposed to be here.
Yeah.
That it felt like it was a fluke that we even got to be here and lived here. And I think that's really a dangerous thing, and a thing that they do, I think, on purpose, at such a young age, to learn about the White Australia policy at such a young age, and then to have such a warped knowledge, a warped and racist knowledge about the Indigenous people at the same time, because you learn about the White Australia policy and then you learn about the Indigenous people as gatherers and hunters, instead of the true fact that they weren't gatherers and hunters. That's, you know, they were intelligent, they were civilized. It was a civilization of harmony with the land. They were architects. They were brilliant architects. They were brilliant fishermen. They were brilliant at everything. They were so brilliant at everything, to the point where their mark on this land made the land more prosperous. You know, for the fact that we could even live on it now. And so at such a young age, learning the White Australia policy against a warped view of the black Indigenous people here just made me feel small. It made me feel uncomfortable. It affected my mental health for a very, very long time, into my 20s. Yeah. Which I also speak about in the show.
The show will feature a lot of songs and music, and these songs, did you write them prior to the show, or you wrote them specifically to the show? Are they part of your repertoire that you just brought in, or you wrote them specifically for this one?
Some of the songs I did write before the show, which is what you get for this show in Darlinghurst Theatre Company, because some of the songs that I'll be performing didn't make it into the final version of the play. So those, there will be some pre-written ones, but all of the songs that are in the play were written on purpose for the play. And with Carl Saint-Jacques, he composed them, and if they were just from the written text that I had written, it was like I would just explain to him the feeling of the text or what I was trying to explain, and then I would get him to just I'd say, okay, that's the feeling, now play something that you feel the sounds like that. And then he would play it, and then I would hear it, and then I would write down the lyrics. And it took us, like, honestly, to write all of the songs that are in the play.
Yeah.
It took us like 2 days. It didn't take very long. He's a very, very talented man.
Yeah, you're very talented yourself. So it's just two brilliant minds coming together. Now, as we edge to the end of our conversation, mm-hmm. I'd like you to maybe recap for us, tell us the takeaway message that listeners should get, and what they'll be experiencing during these few nights in Darlinghurst?
What I would like for people to get is to get a sense of understanding what it's like to be the child of immigrants in a colonized country, and that the feelings that that child of an immigrant can have and experience are valid and I don't want to say the word normal, but because some of it is abnormal, but that the confusion, the anger, the sense of trying to search for a belonging, to search for a sense of self, is kind of the result of being, you know, the second generation or the first generation of immigrant parents coming from a different, more enriched culture into a very colonized white space, and how searching for yourself can be a task. And so I hope people get, when they leave this show and what they experience, I hope they experience the storytelling of it, and I hope they walk away with a deeper understanding of what it can be like for themselves, if they're here as an immigrant themselves, or if they're here as an immigrant and they have children, so they can have a sense of what their children might be feeling as well.
Nancy Dennis, thank you so much for taking the time to talk to us today.
Oh, no worries. Thank you so much for having me.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
C'était nous par Julien Doré sur les antennes de la radio SBS à 13h54min33s.
Vous êtes avec SBS French.
Des renforts en provenance de l'étranger ont commencé à affluer pour aider à pallier à la pénurie chronique de main-d'œuvre dans les fermes australiennes. Un groupe de 200 cueilleurs de fruits en provenance des îles du Pacifique a été le premier à pouvoir travailler au Victoria dans le cadre du programme de relance du travail saisonnier de l'État. Vanview Orchards dans la Yarra Valley au Victoria connaît une récolte exceptionnelle cette année, mais sans suffisamment de travailleurs pour cueillir les fruits, la propriétaire Sue Finger dit que la situation pourrait très vite tourner au vinaigre.
You only have one chance to get your crop in, and if you miss that chance, then it's sort of goodbye, and it may be goodbye completely from the business that you love.
Et pour maintenir l'entreprise en marche après le revers de la pandémie de coronavirus, Sue et son mari David sont disposés à dépenser des milliers de dollars pour faire venir des travailleurs étrangers.
We'll take a hit, but we're prepared to do that because with perennial tree crops, if you lose a year of income, you've lost your business.
Un groupe de travailleurs originaires du Vanuatu est le premier des 1500 insulaires du Pacifique recrutés au Victoria, qui, il faut le rappeler, est le dernier État à relancer le programme des travailleurs saisonniers. Mary Ann Thomas, la ministre de l'Agriculture du Victoria, estime que recourir aux travailleurs saisonniers étrangers est crucial pour une industrie qui peine à trouver suffisamment de travailleurs locaux au moment de la récolte.
It is a great program that ensures that the workers are paid correctly, that they are accommodated safely, that their occupational health and safety and well-being is looked after at all times. Backpackers are not coming back anytime soon. What the pandemic has exposed is that the horticulture industry is over-reliant on overseas workers.
Mais le retour des cueilleurs internationaux implique aussi un coût supplémentaire pour les agriculteurs, car ces travailleurs doivent passer un temps en quarantaine avant de pouvoir travailler dans les fermes. Les travailleurs des îles du Pacifique ont entrepris leur isolement des 2 semaines contre le COVID-19 en Tasmanie. Ce, dans le cadre d'un accord entre le Victoria et la Tasmanie, un accord qui implique que le Victoria hébergera en retour les voyageurs rapatriés de Tasmanie lorsque son système de quarantaine hôtelière va reprendre cette semaine. De l'île aux pommes, au verger de pommiers, ils sont heureux d'être ici. Même si pour Kaltak Takawa, cela signifie qu'il n'a pas encore rencontré sa fille de 2 semaines.
When I was my first night in quarantine, that was when my wife went to labor. Yeah.
Juste un autre petit sacrifice pour soutenir les familles dans le besoin au pays. Pour connaître les mesures de santé et de soutien actuellement en place en réponse à la pandémie de COVID-19 dans votre langue, visitez sbs.com.au/coronavirus.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
rappel des titres de l'actualité de ce samedi. Un salut de 41 coups de canon à Canberra aujourd'hui marquera le décès du prince Philippe. L'Australie se précipite pour obtenir plus de doses de vaccins avec 20 millions de vaccins supplémentaires de Pfizer promis d'ici la fin de l'année. Et en France, suspense sur la tenue des élections régionales sur fond de raté de la campagne vaccinale liée au vaccin AstraZeneca. Ceci nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochaine édition, c'est demain dimanche. Quant à moi, je vous souhaite un très agréable après-midi, un très bon week-end et à très bientôt. Et je vous laisse en compagnie du feu Chatterton dans Monde Nouveau.
Un bain de foule et dévot, à moitié épaillé.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.